vous allez trouver, chers amis, ici dans votre livret, un plan. Ça pourrait vous aider à suivre ce que nous allons essayer de voir ensemble dès maintenant. Mais je pense que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins trois pôles autour desquels des chrétiens circulent lorsqu'ils réfléchissent à propos du sujet du péché, ce que nous venons d'entendre déjà dans cette lecture. Donc, trois pôles. Premier pôle, il y a la personne qui ne pense pas que chérir une mauvaise action, une mauvaise pensée, une mauvaise parole est en porte-à-faux avec sa foi chrétienne. Qu'il peut y avoir donc compatibilité pour une telle personne entre une appartenance à l'Église de Jésus-Christ et un comportement agressif envers quelqu'un d'autre. Une façon de peut-être parler derrière le dos de quelqu'un d'autre pour se faire quand même un peu avancer dans la vie, ou de mentir ou de tricher lorsque cela nous arrange, parce que d'autres font de même, ou de peut-être traiter ceux qui sont en dessous de moi, dans mon travail, dans ma société, avec du mépris, parce que c'est comme ça qu'il faut traiter des personnes si on veut que les choses soient efficaces. Paulin, le papa ici de Nadine, m'a parlé récemment d'un pasteur qui, lorsqu'il prêchait, il parlait de manière puissante et impressionnante. Mais lorsqu'il s'adressait à une personne qui s'occupait de l'arrangement de fleurs devant la chaire, il lui parlait avec du mépris et de l'agression, sans voir l'incompatibilité par rapport à ça. D'autres continuent à se tourner vers la drogue, ou vers l'alcool, ou vers le sexe, que ce soit digital ou réel, car dans le court terme, ils trouvent ça agréable. Et selon le principe du respect des autres, pourvu que je ne fasse pas du mal à quelqu'un d'autre, que c'est consensuel, où est le mal dans tout cela? Ça, c'est le premier pôle. Ceux qui pensent que chérir une mauvaise action, une mauvaise pensée, n'est pas en porte-à-faux avec sa foi chrétienne. Deuxième pôle, c'est le chrétien qui vise une réalité où il ne se croit plus concerné, lui, elle, par le péché. Sur le marché chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel qui nous offre encore aujourd'hui la victoire sur le péché dans notre vie, qui disent implicitement, si ce n'est pas explicite, qu'après avoir commencé dans la foi chrétienne par la foi en Jésus-Christ pour être justifié, être pardonné, il faut maintenant un peu changer de vitesse afin d'être pleinement sanctifié. Car en Christ, on nous dit, il y a après tout la victoire. En Christ, par son esprit, il n'y a plus de raison de vivre de façon vaincue. Il faut vivre plutôt cette victoire. Et beaucoup de méthodes nous sont proposées pour y arriver, assister à une conférence, lire un tel ou un tel livre, pratiquer une discipline spirituelle ou une autre. Certains disent que si le pardon a été accordé à la conversion, c'est une bénédiction de l'esprit, une vie remplie de l'esprit qui manque à une telle personne et qu'il faut donc passer par cette piste afin de mener la vie de victoire que Dieu il veut pour toi. Peut-être que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle des chrétiens charnels d'un côté, des chrétiens spirituels d'un autre côté. Ou peut-être plutôt, on parle d'avoir accepté Christ comme sauveur, mais pas encore comme Seigneur. D'autres parlent notamment du baptême de l'Esprit, qui doit avoir lieu, selon eux, après la conversion et après le baptême d'eau. Et cela est plus populaire, bien entendu, dans certains milieux pentecôtistes. Ça, c'est le deuxième pôle qui nie que le péché est encore un problème. Alors, le troisième pôle, ce n'est pas de nier la gravité du péché, ni sa réalité dans la vie, mais c'est de toujours ne pas avouer que j'ai tort. Ce n'est jamais moi qui a péché. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais ma propre responsabilité. Oui, en principe, c'est possible que je pêche. Mais vous savez quoi? Je ne pêche pas. Chaque action s'explique par une longue justification qui met ultimement le blâme sur des facteurs externes, des comportements injustes de la part des autres, et ainsi de suite. Cette personne se justifie, cette personne trouve toujours des raisons exténuantes pour chaque action faite. Peut-être vous connaissez de telles personnes. Cette personne ne demande jamais pardon parce qu'il n'en a pas besoin. Donc voilà trois pôles qui circulent encore aujourd'hui et qui circulaient sous différentes formes aussi à l'époque de l'apôtre Jean. Rappelons-nous que 1 Jean, donc la première épître de Jean, lorsqu'il a écrit 1 Jean, il y avait certains enseignants, des faux enseignants, qui ont commencé à circuler des idées qui allaient à l'encontre de l'enseignement des apôtres, qui perturbaient en conséquence la stabilité de nombreux croyants. Et Jean, il écrit afin de rassurer des croyants dans leur foi telle qu'elle leur a été enseignée au début. Et dans le premier chapitre, il met en place quelques fondements nécessaires pour pouvoir ensuite repérer ces erreurs. Et dans notre texte de ce matin, sur le livret, il démarre au verset 5 en faisant le lien entre le témoignage des apôtres et leur message. Car il dit « Voici le message que nous avons entendu de lui ». Donc le message qu'il annonce, nous vous annonçons, il dit encore, est le message dont ils ont été témoins. Donc ce n'est pas la création de l'homme ce qui suit. Ça vient de Jésus-Christ lui-même. Et quel est le message? En résumé, toujours le verset 5. Que Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Ce n'est qu'en comprenant la nature de Dieu lui-même que nous serons en mesure de peser les affirmations de ceux qui prétendent connaître ce Dieu. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Dans la Bible, lumière révèle, éclaire le chemin. On vient déjà de chanter par rapport à ça. Le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manque d'expérience. Jean, dans son évangile, non pas ici sa lettre, il parle aussi de cela, de cette révélation que donne la lumière, lorsqu'il dit que Jésus est la lumière du monde. Cette lumière, dit-il, était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Mais ce que cette lumière révèle, éclaire, c'est également l'état de notre cœur. Maintenant, de nouveau, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. Voici quel est le jugement. La lumière, donc Jésus, est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Alors nous avons, comme vous, j'imagine, un canapé dans notre salon. Notre canapé IKEA, un peu vieux maintenant je dois dire, est lourd et difficile à bouger. Et il est trop profond et trop peu élevé du sol pour pouvoir facilement mettre un bras en dessus lorsque quelque chose s'y glisse, comme un ballon de ping-pong ou autre. Du coup, parfois, afin de voir où se trouve l'objet perdu, j'allume la lampe torche de mon téléphone. Et qu'est-ce que je découvre quand je fais cela? De la poussière. Que si on ne laisse cette poussière dans les ténèbres, personne ne le voit, personne n'est troublé par ça. Mais une fois que je vois la poussière, une fois révélée, on sait que c'est super sale et ce n'est pas agréable. Cela nous pousse enfin, en ce qui me concerne en tout cas, à faire le nettoyage. Si la lumière révèle la saleté, c'est parce qu'elle est pure, elle est bonne, elle est saine. Et lorsque Jean dit donc que Dieu est lumière, ici au verset 5, en lui il n'y a pas de ténèbres, dès le verset suivant, il parle de quoi? Du péché, qui fait contraste à sa lumière. Marcher dans les ténèbres signifie que nous avons besoin non seulement d'éclairer, de mieux connaître des choses, mais nous avons besoin d'être purifiés de tout péché. Car les ténèbres ne sont pas simplement l'ignorance, mais la méchanceté, la saleté. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Alors, dans l'esprit de tout écrivain biblique, si nous lisons l'ensemble de la Bible, cela est un fondement qui ne bouge jamais. Dieu, le Dieu souverain et tout-puissant, il est à tout moment lumière, parfaitement saint, parfaitement bon. Évidemment, il y a de la place dans le canon biblique, parmi différents auteurs de la Bible, pour de la réflexion sur l'existence du mal dans un monde où Dieu est parfaitement bon. Ce n'est pas que nous qui avons pensé dans notre siècle à cette question-là. Nous pouvons lire Job, Habakkuk, les psalmistes, pour juste en mentionner trois exemples. Mais l'affirmation ne change jamais. Dieu est 100% bon, pur, saint. Il est lumière. Mais Jean, ici, ne cherche pas à répondre à une question philosophique dans notre texte. Il ne demande pas pourquoi le mal, mais que faire ceux qui commettent le mal pour entrer en communion avec un Dieu qui est lumière? Non pas dans comment expliquer le mal, mais comment cesser de faire le mal. Et cela nous mène à trois donc fausses pistes que les faux enseignants, sous une forme ou une autre, étaient en train de circuler autour d'eux. Nous allons les parcourir assez rapidement avant d'arriver à quelques applications, car déjà nous avons mentionné ces trois fausses pistes dans les trois pôles autour duquel nous circulons lorsqu'on pense au péché. Chacune de ces fausses pistes est introduite ici dans ce texte avec la même formule au verset 6, au verset 8, au verset 10. Si nous disons que, si nous disons que, verset 6, la question de diminuer donc la gravité du péché pour le croyant en Christ cet enjeu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres. Voilà, une telle personne dit quoi? Première fausse piste, mon péché n'est pas grave. La communion avec lui, malgré une façon de fonctionner, nous chérissons le péché. Marcher ici, marcher, ça parle d'une orientation de vie bien établie, de partir dans une direction, bien convaincu que c'est la bonne direction. Ça ne parle pas ici d'une chute ponctuelle. Non, si nous marchons dans les ténèbres, cela n'est pas compatible avec la lumière. Dieu est le mensonge. Donc, lorsque tout le monde fait ce mensonge pour se faire avancer. Il est le Dieu de la vérité. Dieu est le meurtre, y compris là, le meurtre que nous commettons lorsque nous nous mettons en colère, lorsque ma volonté est contrée par quelqu'un d'autre, lorsque je dénigre mon prochain pour sortir un peu mieux quand je raconte ce qui s'est passé dans l'affaire. Il est le Dieu de la vie. Dieu est l'infidélité sexuelle. Il est le Dieu fidèle. Dieu est le vol. Il est le Dieu généreux qui donne. Minimiser l'importance et l'impact du péché est une fausse piste. Que dis-je si nous disons cela? Nous mentons. Nous faisons croire que Dieu n'est pas offensé par le mal, ce qui n'est pas vrai. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Intéressant donc, il est possible par conséquent de pratiquer une forme de la foi qui n'est pas toutefois la vérité. Toute religion dite chrétienne n'est pas forcément une expression de la vérité, mais parfois plutôt une déformation de la vérité. Si cette expression de la foi chrétienne ne maintient plus une distinction entre Dieu et le péché. Deuxième fausse piste, je ne suis pas concerné par le péché. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ce n'est pas certain ce que les faux enseignants réclamaient ici. Que comme la foi a affaire au domaine spirituel, ce qui avait lieu ici sur terre, sur le plan matériel, ne les concernait pas. Est-ce que c'est ça ce qu'ils voulaient dire? Peut-être. Ou bien que eux, les illuminés, qui avaient une connaissance particulière de Dieu, exclusive de Dieu, eux, ils avaient pu se débarrasser de cette nature pécheresse. Il fallait se joindre à eux. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est faux. Si cette fois, la conséquence n'est pas un mensonge par rapport aux autres, nous les autres, lorsque quelqu'un réclame une telle bêtise, nous voyons assez facilement que le péché est encore là. Il suffit de vivre un peu de temps, et pas beaucoup de temps, je dirais, pour que cela soit évident. Il faut demander à l'épouse de la personne ou à ses enfants si une telle personne n'est pas concernée par le péché. Là, vous aurez la réponse juste. Non, ici, il s'agit de se séduire nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Ça, c'est le danger des sectes, des petits groupes qui essayent de tout contrôler, qui circulent autour d'un gourou, une technique particulière. Cela a l'air, pendant un temps très alléchant, la victoire sur le péché, amen! Mais ce n'est pas vrai. La vérité, dit Jean, n'est pas en nous. Comment peut-elle l'être? Car elle révèle la vérité en ce qui nous concerne, que nous sommes à tout moment ceux qui échouent par rapport à ce que Dieu nous demande. La troisième fausse piste est celle-ci. Je n'ai pas péché. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Même si la distinction entre cette troisième possibilité et la deuxième possibilité n'est pas toujours facile à discerner, j'ai lutté avec ça encore cette semaine, la différence se trouve, je pense ici, dans le sens où le péché n'est plus un non, comme dans le deuxième cas, si nous nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est un non, mais ici il est question d'un verbe, nous n'avons pas péché. Donc bien que je laisse ici toujours la possibilité que le péché soit là en théorie pour moi, je nie moi-même d'avoir commis le péché. Au lieu donc d'avouer le péché, je prends refuge par exemple dans la médecine ou la psychologie qui trouve toujours moyen d'expliquer les mauvais désirs, les mauvaises actions autrement. En cherchant à comprendre des influences qui m'ont rendu susceptible, ça oui, à un comportement ou à un autre, j'arrive très facilement à me faire croire que je ne suis pas responsable pour ce que je fais. Ce que je fais n'est pas question de péché, vous comprenez. Les conséquences d'une telle façon d'y réfléchir, verset 10, nous faisons de Dieu menteur, sa parole n'est pas en nous. C'est oser, vous savez, de faire de Dieu un menteur. C'est insensé qu'en se faisant, elle révèle à quel point nous sommes nous-mêmes pécheurs, rebelles par rapport à ce Dieu. Car Dieu, au contraire, il est lumière. Sa parole n'est pas en nous. Bien entendu que non, car cela va à l'encontre de ce que Dieu dit. Et ce que la parole de la vie, Jésus proclame, un évangile de salut pour des pécheurs. Déjà, ne pas prendre la parole de quelqu'un d'autre ici parmi nous est sérieux. Prends un exemple de cela, un exemple un peu rigolo pour vous faire comprendre ce dont il s'agit. Alors, je connais Sarah Marcos, je pense, depuis environ 5 ans. Je n'ai pas parlé à Sarah par rapport à ceci. De par le contact à l'Institut biblique belge, les groupes de quartier, le groupe d'ados dans lequel elle est bien impliquée, de par sa proximité, parce qu'elle habite pas loin de chez nous, elle est venue souvent dans notre foyer. Et jusqu'à la semaine dernière, pendant 5 ans, par habitude, lorsqu'elle passe nous voir, je lui demande chaque fois si elle prend du café. Et non, elle dit, pendant 5 ans, je ne bois pas de café. Alors, pendant 2 ou 3 ans, elle était polie par rapport à ces questions-là. En se disant, j'imagine, bah, je ne viens pas souvent, il oublie, il a déjà 50 ans, etc. Okay? Mais ces 2 dernières années, bah, j'imagine dans son cœur, elle commençait à se fatiguer un peu de mon incapacité de ne pas bien comprendre qu'elle ne prend pas de café. Disons que ce dernier temps, il y a un élément d'exaspération qui entre en jeu. Tu ne me crois pas, c'est ça, quand je te dis que je ne prends pas de café. Tu penses que je ne te dis pas la vérité lorsque je te dis que je n'aime pas le café. Et certainement, ma parole, ce que je t'ai dit à plusieurs reprises, n'est pas en toi. Ce que je te dis sans cesse, tu fais exprès de l'ignorer. C'est quoi ça? Elle m'a dit ça la semaine dernière. C'est une mauvaise blague? Ici, auprès de Dieu, il n'y a pas de blague. Il nous dit quelque chose à propos de notre état de pécheur et on refuse de le croire. On fait de lui un menteur. Sa parole n'est pas en nous. Donc voilà 3 fausses pistes. Et avec ces pistes en tête, j'aimerais faire un petit bilan avant de passer à la bonne façon de procéder pour terminer. Mais d'abord, faisons un petit bilan lorsque nous sommes face à notre propre péché. J'ai plusieurs titres ici que je n'ai pas mis sur le livret. D'abord, ne cherchons pas à minimiser le péché. Quelles sont les phrases que nous sortons pour minimiser le péché dans son ensemble? Personne n'est parfait. Je ne suis qu'un homme après tout. J'ai fait du mal à personne, tu sais. Dans tout cela, l'accent est où? Ben, l'accent est sur nous. Et on se compare aux autres. Comme le pharisien dont Jésus parlait dans l'évangile de Luc. Lorsque je fais ça, je me trouve du bon côté de Dieu. Parce que je me compare à pire que moi. Mais ici, nous avons affaire à Dieu, qui est lumière, en qui il n'y a pas de ténèbres. Dire que nous sommes en communion avec lui, tout en chérissant une vie de péché, tout en caressant le péché, comme s'il n'y a rien de mal à le faire, c'est grave. Car nous sommes en train de croire que Dieu peut cohabiter avec le mal. Il ne peut pas. Face à Dieu, tout ce qu'il aborde, tout ce qu'il nous dit est péché, cupidité, rancune, égoïsme, infidélité, avarice, malice, amertume, tout cela est péché. Ne cherchons pas à minimiser le péché. Deuxièmement, ne soyons pas surpris des tentatives de redéfinir le péché et redéfinir Dieu. Au lieu de ne pas être confronté par le péché, l'une des stratégies du diable, c'est de mettre en doute la parole de Dieu. Dès le jardin d'Éden, où le serpent posait cette question séduisante, Dieu a-t-il réellement dit ? Il a semé le doute par rapport à ce que Dieu a affirmé. Donc Dieu a-t-il réellement dit que des relations intimes sont réservées pour le mariage entre un homme et une femme, que la cohabitation, l'adultère ou la pornographie ou toute immoralité sexuelle, que ça, elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, est un péché. Vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un il y a 15 jours qui disait qu'il y a un couple dans son église qui se marie prochainement. On était content d'apprendre cela. Mais j'étais surpris d'apprendre que ce couple a déjà cohabité pendant au moins un an ou deux et que l'Église n'était pas du tout troublée par cela. Je n'étais pas surpris, bien entendu, par le fait de la cohabitation. Oui, je comprends que ça a lieu, mais que l'Église ne pensait pas qu'il y avait un sérieux problème du péché à régler, c'est ça ce qui m'a surpris. Non, au contraire! Ils disent, qui sommes-nous pour porter jugement, vous savez? Et derrière ce couple, ils sont très sympas. Mais que les responsables de l'Église, au lieu de chercher à conduire de telles personnes vers la repentance, les encouragent à croire que c'est possible d'être en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres, c'est terriblement méchant. Que l'Église anglicane au Royaume-Uni, une Église que nous connaissons bien de par notre propre passé, permet aujourd'hui des prières de bénédiction dans leur liturgie pour des couples gays, est un abandon du rôle de l'Église, car ça encourage le péché au lieu de vouloir le contrer. Si d'un côté on essaie de redéfinir donc le péché, ce n'est plus péché, donc ça va, je peux le faire. L'autre piste que l'homme poursuit, c'est de redéfinir Dieu lui-même. Dès que quelqu'un dit que pour eux, Dieu, il est plutôt, vous savez, loin. Le Créateur, oui, d'accord, mais pas forcément quelqu'un que nous pouvons encore connaître personnellement. Ce n'est pas pour moi, Dieu, vous savez. Nous ne devons pas être aveugles quant aux raisons qui sont sortis pour une telle conception de Dieu. Ces raisons ne sont pas purement intellectuelles, vous savez, parce qu'un Dieu plus distant est un Dieu qui fait quoi ? Qui ne me demande rien, qui est silencieux, et donc qui ne nous embête pas avec des exigences que je ne veux pas entendre. Donc ne soyons pas surpris des tentatives de redéfinir le péché, et donc redéfinir qui est Dieu. Troisièmement, ne soyons pas découragés par la présence du péché dans nos vies. Car la présence du péché, la présence d'esprit d'appeler le péché tel qu'il est, en fait fait preuve d'une foi qui est grandissante et réelle. Souvent, je pense qu'un jeune chrétien fait preuve d'un sentiment de découragement après quelques mois ou après quelques années dans sa foi chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il se croit plus pécheur qu'il était au début de sa conversion. Et il se dit donc, en fait, pour finir, je vais dans la mauvaise direction. Mais en réalité, ce qui est en jeu, c'est qu'il était en train de laisser entrer encore la lumière qu'il révèle comme une lampe torche dans le noir, différents coins en dessous du canapé. Si au début Dieu s'est concentré sur nos actions, il brille ensuite sa lumière sur nos paroles et encore après sur nos attitudes, nos pensées, nos motivations. Il continue et il continue à briller sa lumière. Ce n'est pas que nous sommes plus que pécheurs qu'avant alors, mais comme un bon coach, Dieu petit à petit met le doigt sur une chose à la fois. Il y a encore du travail à faire. À chaque moment, nous voyons jusqu'à quel point le péché est encore là dans nos vies. Et de voir cela, ça fait plutôt bon signe. Donc ne soyons pas découragés par la présence du péché dans nos vies. Et ne cherchons pas, quatrièmement, à nier la réalité du péché. Parce que tout chrétien lutte avec le péché. Aucun chrétien se débarrasse totalement du péché avant le retour de Jésus-Christ, comme disait Samuel. Oui, merci Seigneur, il change l'orientation de nos vies. Nous allons voir cela très clairement plus tard dans l'épître de 1 Jean. Il y a eu un changement de direction dans le croyant. Et notre relation avec le péché n'est plus la même qu'avant. Nous marchons, d'ailleurs dans ce texte, dans la lumière. Mais toute déclaration qui promet ou qui nous fait croire que la lutte avec le péché, ce n'est rien que pour des chrétiens de deuxième classe, est trompeuse. Dans certains milieux, nous utilisons cette expression « let go », donc lâcher prise, et « let God », laisser Dieu faire. Comme si seulement on pouvait laisser Dieu travailler en nous, toute lutte cessera. Et on se mettra tout d'un coup en sixième vitesse, plutôt qu'être collé comme ces pauvres chrétiens qui sont en troisième vitesse. Non, la vie chrétienne, jusqu'au bout, est une vie de repentance et de foi. Ne mettons ensuite pas des hommes sur un piédestal. Ne mettons pas des hommes sur un piédestal. Si ce que Dieu dit est vrai, et c'est vrai, alors c'est important de ne pas mettre notre espoir dans les hommes. Qu'aucun homme ou femme, qu'il soit ancien, pasteur, président, directeur d'une œuvre chrétienne ou autre, arrive à vivre parfaitement en conformité de ce qu'il enseigne ou proclame. Ça s'applique bien entendu à moi également. Oui, de tels responsables doivent être cohérents, irréprochables par rapport à ce que les gens voient en nous. Mais cela ne signifie nullement que nous sommes parfaits à tous égards. Et nous devons donc nous méfier et des brebis qui mettent trop de confiance dans un pasteur irresponsable, mais et des responsables qui se laissent trop facilement flatter par des brebis. Super aujourd'hui, me dit quelqu'un en quittant l'église. Quel est le danger pour moi? T'as raison, c'était bien, n'est-ce pas? C'est une recette pour la déception, tôt ou tard. Pas pour dénigrer les responsables et leur travail, mais pour ne pas remplacer notre dépendance, notre adoration de Dieu avec une crainte et une dépendance malsaine sur des hommes, même des hommes fidèles. Car eux, ils continuent aussi à pécher régulièrement, en acte, en parole, en pensée. Donc nous devons veiller dans nos échanges les uns avec les autres de ne pas faire comprendre que l'un de nous est sur un rang différent, supérieur, plus spirituel que les autres. Nous sommes tous de temps à autre ceux qui peuvent se comporter de manière charnelle. Et spirituel ne signifie pas sans péché. Et cela m'amène à une dernière remarque avant d'arriver à notre dernier point. On y arrive petit à petit. Dernière remarque, maintenant notre communion les uns avec les autres. Suis frappé, moi, par le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion. Et ensuite quoi? On aurait pensé qu'il dirait avec lui. On s'attendrait à ça parce que c'est ça ce qu'il a dit au verset 6. Mais que dit-il? Nous sommes en communion les uns avec les autres. Car lui, si nous reconnaissons le péché comme péché dans nos vies, cela nous permet de partager la même base pour notre communion. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et donc c'est vers cela que nous nous tournons à la fin de cette prédication avec ce point B. Un seul secours pour notre péché, le sang de Christ. Verset 7, le sang de Christ purifie de tout péché. Bien sûr, dans la perspective biblique, ce n'est pas comme si un liquide appelé sang, et donc le sang de Christ en ce sens-là, nous purifie réellement. Non, le sang est un symbole de la vie violemment et sacrificiellement terminée. Jésus a offert son sang, il a versé son sang. Nous allons nous rappeler de ça dans quelques instants lorsque nous participons ensemble au repas du Seigneur. Il a donné sa vie en sacrifice, le juste mourant pour l'injuste, afin que nous puissions être pardonnés. C'est ainsi donc que nous traitons le péché. Comment êtes-vous devenu chrétien, chers amis, si vous l'êtes ici aujourd'hui? N'avez-vous pas dû accepter votre péché et dire à Dieu, « Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. J'accepte par la foi, la confiance en ce que tu as fait en Jésus-Christ, que Jésus est mort à ma place pour que je sois pardonné. » Et donc, que faire lorsque nous sommes face à notre péché en tant que chrétien, plusieurs années après notre conversion? Verset 9, si nous confessons nos péchés. Non, nous devons les confesser, faire face à cette réalité au lieu de les nier, au lieu de les minimiser. Nous ne confessons pas nos péchés aux prêtres, aux pasteurs, nous ne confessons pas nos péchés non plus les uns aux autres, même si de temps à autre, il y a certaines circonstances où nous pouvons nous confier aux autres. Mais ici, il s'agit de confesser nos péchés à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, verset 9. Bien entendu, ce n'est pas pour nous encourager à pécher qu'il nous écrit, comme si, ah ben voilà, tu vois, pas de souci, donc je continue dans le péché. Non, on retombe dans l'une de ces fausses pistes qui nous disons cela. Chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. » Car Dieu est lumière et marcher dans les ténèbres, c'est de nier sa lumière. Mais Jean reconnaît que le péché est encore un problème. Et donc il continue, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Alors les avocats, en suivant mauvaise presse de nos jours, comprenant cela, nous avons l'impression parfois qu'ils s'enrichissent tout en faisant une représentation moyenne, voire même mauvaise. Parfois, il y a certaines personnes dans notre assemblée qui ont fait preuve de ce genre d'expérience. Mais l'avocat qui prend notre défense auprès du Père, il est comme en lui. Jésus-Christ, le Juste. Le Juste. C'est lui, celui qui n'a pas péché, qui a versé son sang. Il a été, verset 2, victime expiatoire. C'est-à-dire que sa vie, la fils de Dieu lui-même, a été offerte comme un sacrifice pour nous purifier de nos péchés. Et ainsi, Dieu est fidèle à ses promesses. Ses promesses tout au long de la Bible, de pardonner ceux qui se tournent vers lui. Et il est aussi juste, car le péché là maintenant, ce n'est pas ignoré, ce n'est pas oublié, ce n'est pas juste en dessous du tapis, en dessous du canapé. Non, le péché est traité, jugé, condamné. Condamné en Jésus-Christ, lorsqu'il prend sur lui la colère que notre péché avait mérité. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement il dit pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce sacrifice suffit pour tout péché. Tout péché qui se tourne vers lui. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ce pas de vous tourner vers lui pour recevoir le pardon de vos péchés. C'est la toute première chose à faire. Au lieu de nier la réalité, au lieu d'être dans l'incapacité de faire quelque chose face à cette réalité, Dieu nous offre une sortie de secours, le sang de Christ. Nous faisons cela lorsque nous commençons la vie chrétienne, mais nous faisons cela aussi afin de pouvoir continuer dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas accablés par notre péché, pas condamnés de nouveau par notre péché, mais nous sommes reconnaissants que nous allons être dans un instant, de pouvoir dire encore une fois, encore après toutes ces années de vie chrétienne, que j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Celui-là, dit le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il pense à moi, lorsqu'il pense à toi, si vous avez confié votre vie en Jésus-Christ, celui-là, dit le Fils au Père, il est à nous, il est à nous. Son péché a été payé. C'est fini. Voilà comment, chers amis, nous devons réagir face à notre péché. Alors, je vous invite à prier. Ensuite, c'est à Samuel. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quelle joie, Seigneur, de connaître Jésus-Christ le juste, qui a versé son sang afin de nous purifier de tout péché. Donne-nous de ne pas nous embarquer dans l'une de ces fausses pistes. Donne-nous l'humilité les uns envers les autres, mais surtout l'humilité en ce qui te concerne, pour reconnaître encore aujourd'hui notre péché et pour confesser notre péché, trouver le secours pour notre péché. Que nous puissions nous encourager les uns les autres à faire cela. Et cela pour ta seule gloire, nous te prions. Amen.